qu'on va se lever? Quels muscles, quelle partie du corps il faut qu'on convoque en premier?
Qu'est-ce qui vient avant, d'après vous? D'abord, il y a l'intention. Et puis très, très loin derrière, il y a le sentiment. Pour après arriver à la sensation. Et là, on peut avoir l'élévation.
On a peur de quoi la première fois? Il faut qu'on se concentre sur quoi? Quand on ne s'est pas levé depuis un moment?
C'est pas d'un coup, c'est tout petit peu, parce que le doigt, il est extrêmement loin, c'est-à-dire qu'il est avant. Il faut se souvenir d'un accident de vélo, de quelqu'un qui vous a tordu le doigt, peut-être quand vous aviez 5 ou 6 ans, et refaire tout le cheminement entre votre cerveau et ce doigt. Et donc, marcher, c'est bien après.
Ça représente quoi, marcher?
Ça représente la liberté, ça représente la possibilité de se rencontrer, de rencontrer un nouveau soi. Car quand on sort d'une longue maladie, on est quelqu'un de nouveau, peut-être.
Et c'est quoi la distance première sur laquelle on peut se réexercer?
La distance première?
On marche, on fait 3 pas, on traverse une pièce, on traverse une rue.
On traîne avec soi une immense lenteur. On espère qu'un jour, on pourra marcher selon la norme. Mais il fallait que j'aille chez le pharmacien. Le pharmacien, il était loin, il était à 150 mètres. Il me fallait une demi-heure. Alors j'arrivais chez lui tout doucement, et je m'écroulais sur une chaise en disant « Ah, j'en ai marre ». Et il m'a dit « Vous savez, le temps ne pardonne pas à ce qui est fait sans lui ».
Alors si on se levait à la façon de la première fois.
Est-ce qu'on va y arriver? Parce que quand on perd les jambes, on se dit « Est-ce qu'on va ?» On ne peut plus rien faire. On ne peut plus aller nulle part. On n'a que l'espace mental et les souvenirs. On y va? En fait, il faut savoir qu'est-ce qui nous porte. D'après vous, qui vous porte? Qu'est-ce qui porte votre tête? D'après vous. Ce qui porte votre tête, c'est un petit fil invisible qui est relié à quelque chose tout là-haut. Et tout le corps est suspendu à la tête. Donc du coup, on est beaucoup plus à l'aise.
Et quand vous avez remarché la première fois, une vraie marche à travers la ville, c'était quoi la sensation?
La ville était à moi. Je pouvais faire ce que je voulais avec qui je voulais. En tout cas, je le croyais. Après, on m'a rappelé la réalité.
Je veux que tout change.
Est-ce que vous avez entendu la voix de l'enfant, Isabelle Fruchard?
Oui, j'ai entendu la voix de l'enfant. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais j'ai entendu sa voix.
Pourquoi vous ne comprenez pas? C'est quelle fréquence?
Je ne sais pas. Si je l'entends, ça veut dire que c'est une fréquence pas si aiguë que ça, mais elle est très 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 aiguë, je n'entends pas du tout. Mais là, j'entends, mais je ne comprends pas. Pour moi, ça pourrait être n'importe quelle langue, en fait.
Il y a une voix d'enfant que vous avez mis du temps à entendre.
Oui, un cri, vous voulez dire? Un cri de petite fille dont je ne suis pas sûre que je l'entends d'ailleurs. J'entends une espèce de bruissement. Je sais qu'il y a quelque chose, mais si je ne savais pas à l'avance que c'était un cri, je ne saurais pas dire ce que c'est. Je dirais, j'entends quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Et là, on m'a dit que c'était un cri, donc mon cerveau, il anticipe.
Et votre voix, quand vous l'avez réentendue, vous l'avez perçue comment?
Vous savez, là, vous avez un écouteur sur les oreilles en ce moment, vous avez un casque, vous entendez votre propre voix, vous voyez bien l'effet que ça fait, quelque chose d'étranger, de très fort, de... C'est pas comme quand vous vous entendez depuis l'intérieur. Et en fait, c'est beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Et c'est comme s'il y avait une intrusion à l'intérieur de moi-même, l'intrusion de moi-même. Imaginez que vous vivez toute la journée avec votre casque et vos écouteurs sur vos oreilles. Vous vous écoutez toute la journée. C'est pas possible. Donc il faut au bout d'un moment que le cerveau, il fasse l'exercice d'équilibre pour aplanir tout ça, intégrer et faire que votre voix, elle soit à l'intérieur de vous.
Et là, vous parlez avec la voix intérieure ou extérieure ou un mélange ?
Maintenant, le cerveau a complètement égalisé. Il y a des contextes dans lesquels c'est trop fort, mais je parle avec ma voix intérieure, oui, maintenant.
Il est 23h et l'atelier intérieur s'ouvre à nos sensations retrouvées. On perd tout, on réapprend tout, on récupère, avec de la ténacité et du courage. Ça veut dire que tout est là. Qu'est-ce qui fait alors que rien ne marche plus ? On a un corps, il ne bouge plus, on a notre tête, mais plus les mots, on a des oreilles, on n'entend plus rien. L'image de départ ce soir, c'est le médecin qui s'adresse à Christian Streif et lui dit « Il faudra commencer par chercher quelles parties de votre savoir sont encore accessibles et lesquelles ont disparu. Et à ce moment-là, vous acharnez à retrouver et à fixer toutes les données disparues. » C'était un matin ordinaire et Christian Streif, en homme pressé, en PDG, était debout très tôt. C'est ce matin-là qu'une petite sieste s'est transformée en AVC et que les mots sont partis. C'est le thalamus qui a été touché, cette chambre à coucher selon l'étymologie grecque. Cet endroit qui sert à transférer la mémoire vers là où les informations sont traitées. Il s'agit de reconnaître, de faire revenir le mot à la bouche. Tout est là et rien ne vient. Comment on retrouve en soi des mots ? Comment on retrouve en soi des mouvements ? Comment on retrouve l'ouïe quand on l'a perdu ? Petit à petit, on réapprend le temps et la vie et on se rend compte qu'on perd souvent ce qu'on avait déjà perdu, avant l'accident. Les sens, le corps, les mots, ça se perd avant. Ça se perd sans bruit. On essaie de se leurrer, se dire tout va bien, c'est la vie normale. Et puis on a perdu le temps, on a perdu le contact. On travaille, on court, les matins commencent à 6h, les soirs se terminent à 22. On n'imagine pas la vie autrement. On est présent, absent. On parle plus qu'on écoute. On parle sans choisir les mots. On parle trop. Et à un moment, ça s'arrête. Le chemin se coupe. La vie, c'est à faire avec précaution. Parler, c'est avec précaution. Quand on n'a plus d'attention ni à son corps, ni aux oreilles des autres, ni aux siennes, parfois le chemin se coupe. Ce soir, on a commencé par se lever. À minuit, on va remarcher, réentendre notre voix, notre respiration. On choisira les mots avec précaution. Et puis dans une heure, on pourra dire, comme Christian Streif, « Me voilà à nouveau dans le monde. » Et comme la vie est longue, elle sera mieux après qu'avant. Dans notre studio ce soir, des corps nouveaux, des oreilles nouvelles, celles d'Isabelle Fruchard, qui après avoir perdu 70% d'audition à 14 ans, 20 ans plus tard, grâce au numérique, réentend les sons perdus. Elle joue le journal de ma nouvelle oreille, mis en scène par Zabou Bretman, au Théâtre du Rond-Point à Paris, jusqu'au 3 juillet. L'artiste, compositeur, plasticien Ramon Chomata, qui un jour s'est réveillé paralysé, aujourd'hui remarche, revit, rebouge. Christian Streif, auteur de J'étais un homme pressé aux éditions du Cherche Midi, ancien PDG de Peugeot Citroën qui, après un AVC, a perdu les mots. À la chanson L'opium de J.J. Johansson pour se sentir vivant et décupler nos sensations. Enfin, Amélie Bonin dessine, comme chaque lundi soir, l'émission en direct. Le chemin ira de ne rien sentir à tout sentir. On retrouvera tour à tour les mots, le corps et les oreilles. Ça commence maintenant.
Là, ce sont les ciseaux.
Les ciseaux, une paire de ciseaux. Et ceci. Bonjour monsieur.
Oui.
Comment allez-vous?
Ah oui. Ah là. Là oui, mais.
Vous allez mieux?
Oui. Oui.
J'étais un homme pressé. C'était un matin comme les autres, 6h15, un moment calme, immobile, une heure devant soi pour travailler tôt le matin. Et puis le temps du café, au 9e étage du 75 avenue de la Grande Armée, avant que la journée des autres ne démarre. Une matinée ordinaire, après laquelle il faudra 1000 jours de reconstruction. Un accident vasculaire cérébral, des mots qui manquent et quelques années pour tout récupérer. Christian Streif, quand vous vous retrouvez après une petite sieste trop matinale pour qu'elle soit normale, à l'hôpital, je crois qu'il y a quelques mots inventés, les premiers que votre fille a retenus, c'est pluance, encture. C'est quoi ces mots qui arrivent comme ça quand vous retrouvez un peu les esprits, vos esprits?
Je pense que je lui disais qu'il fallait que je retourne vite au boulot, qu'on devait m'attendre, qu'il y avait énormément de choses à faire, que j'allais prendre du retard, que ça donnait plus en séancture, je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que vous aviez conscience, parce que c'est ça qui est étonnant, apparemment vous n'aviez pas conscience de ces phrases distordues
Ah non, pas du tout. Non, j'avais une obsession, c'est de retourner bosser immédiatement. Et j'expliquais ça à tout le monde. J'expliquais ça à ma famille qui était autour de moi, aux médecins, et personne ne m'écoutait, c'était impossible, quoi. Alors que quelques heures avant, ou quelques jours avant, je ne sais pas exactement d'ailleurs, ça, tout le monde m'écoutait, bien sûr.
Et vous aviez quelle sensation? Vous aviez la sensation, vous, de mener des conversations totalement normales à ce moment-là?
Oui, tout à fait. Je suis encore persuadé aujourd'hui que j'étais préoccupé par la prochaine étape du développement d'une voiture, par la prochaine négociation avec les Japonais qu'il fallait faire à tout prix, par tout ça, voilà, ça, ma vie c'était que ça.
Et le professeur Sanson vous explique que c'est le thalamus qui a été touché.
Et qu'il faut compter en moyenne 3 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, pour s'en sortir. Quoi.
C'est quoi exactement cet espace dans le cerveau?
Ah, c'est le cerveau des petites bêtes qui nous ont précédés il y a quelques centaines de millions d'années, je pense. C'était leur cerveau. Aujourd'hui, c'est un espace qui sert essentiellement à transférer des données des zones de stockage aux zones de travail, en gros.
Et c'est quel mot qui manque en premier? Quel genre de mots? Des mots très simples?
Oui, des mots très simples. Et en même temps, vous en retrouvez beaucoup. Et certains vous manquent. C'est-à-dire que rapidement, j'ai réussi à m'exprimer quand même, mais pas de la même manière qu'avant. Un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs. Je ne m'exprime pas du tout de la même manière. Il me manque beaucoup de vocabulaire que je retrouve en trichant un peu, en me promenant.
Dans ce qui reste et ce qui part, dans ce qui reste, il y a vos 3 langues étrangères?
Oui, dont je me sers encore aujourd'hui. Par exemple, quand un mot me manque... Et que je cherche vraiment à le dire en français, je vais le chercher en allemand. C'est plus facile.
Il y a quelque chose qui vous déconcerte au début, c'est que vous ne savez plus le nom des voitures.
Ah, c'est encore vrai aujourd'hui pour tout vous dire.
C'est vrai?
Enfin, il y en a certaines dont je me souviens vraiment. La DS3, par exemple. Ça, je vois ce que c'est. Mais quelquefois, entre une 508, une 608, une 609, tout ça... J'ai encore un peu de mal, oui.
et les noms de vos collaborateurs, puis les noms de vos enfants, vous en parlez beaucoup. Est-ce que cela était facile à retrouver ?
Alors les noms de mes collaborateurs, de l'époque, j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui. Mes enfants, je les ai retrouvés assez rapidement quand même. Ça a été un grand bonheur, ça. Celui de mon épouse, je l'ai retrouvé pratiquement tout de suite.
Quand le professeur Sanson vous dit il faudra 2-3 ans, ça vous semble quoi ce temps-là ? Ça
une
semble
éternité.
L'infini ?
Une éternité, oui.
Et d'ailleurs, au début, vous ne le croyez pas ?
Pas du tout. Au début, je me suis dit qu'il avait tort, comme beaucoup de gens qui m'ont dit des tas de choses. Et quand j'ai décidé quelque chose, j'avais raison, bien sûr. Oui, au bout de 3-4 mois, j'ai essayé de m'y remettre. J'ai triché dans pas mal de situations. J'ai même fait une assemblée générale devant la presse, devant tous les analystes financiers, et ainsi de suite, qui n'y ont pas vu grand-chose, enfin je pense. Je pense que certains se sont rendus compte que tout n'allait pas parfaitement. Et j'ai essayé de reprendre la direction de PSA. Ça, c'était aujourd'hui, je dirais, c'est de la folie. Mais j'ai à peu près réussi à le faire quand même pendant 4-5 mois. Quoi.
Comment on fait pour tricher ? Vous dites tricher ?
Oui, par exemple, lors de cette assemblée générale, il y avait mon directeur financier à côté de moi qui, derrière une estrade, me passait les bouts de papier en ayant écrit rapidement le début d'une réponse à la question du journaliste. Et à partir de là, je démarrais la réponse. Si je commençais à dire des bêtises, il m'en prenait et puis il reprenait la question. Voilà comment on a fait. Et ensuite, j'ai découpé mes journées de façon assez particulière. C'est-à-dire que j'avais besoin de 2-3 heures d'orthophonie par jour. C'était le strict minimum que le professeur Sanson avait décidé de me laisser pour trouver. Ensuite, je travaillais, je sais pas, le tiers ou le quart de ce que je faisais normalement, c'est-à-dire 4-5 heures ou 3-4 heures.
Il faut beaucoup dormir ?
Énormément. C'est le point clé. C'est à peu près la seule chose que j'ai bien écoutée dans ce que m'a conseillé le médecin, de beaucoup dormir. Dormir chaque fois que j'avais envie. J'ai énormément dormi. J'ai dû dormir 14-15 heures au départ, ensuite 12 heures, ensuite... Je rêvais peu à peu ce qui était mon taf à l'époque. J'en suis encore loin, je pense. Je devais dormir 5-6 heures par nuit, quelque chose comme ça. J'en suis à 8 ou 9 aujourd'hui.
Dormir à la façon des enfants qui emmagasinent tellement d'informations qu'il faut que le corps, que le cerveau se repose pour les intégrer ?
Peut-être bien, oui, peut-être bien. Mais je ne sais pas exactement. En tout cas, le besoin, il est là, il est très clair. Et je pense qu'il y a un effet psychologique qui vient du fait de... Que je m'étais dit, il faut que j'écoute ce que m'a dit le professeur Sanson. Donc j'étais attentif aux impressions de fatigue que j'avais et à ce moment-là je dormais. Bon, j'avais pris l'habitude, en tant que patron de PSA, de savoir dormir 5 minutes quand j'avais 5 minutes pour moi. Donc c'est une habitude que j'ai utilisée en fait.
Vous racontez les premiers exercices, les premiers mois où vous essayez de lire quelques petits articles et de les résumer ensuite, 2 minutes après, et c'est pas toujours évident. Et puis le premier été...
Pas évident du tout, c'est-à-dire que ça marche pas du tout. Après avoir passé un quart d'heure à essayer de retenir 10 lignes, et être certain de les retenir, d'avoir mis ça dans un coin de ma tête où je pourrais les repêcher... Après 2 minutes de conversation avec l'orthophoniste, c'était parti. Ça, c'est assez terrible. Et elle m'a fait le coup, je sais pas, 100 fois, 200 fois, je sais pas.
Le premier été, vous partez en Bretagne et vous trouvez un livre d'images, Les 1000 premiers mots en breton, où vous réapprenez des mots pareils, jour après jour, qui sont parfois oubliés le lendemain.
Ça, c'est avec mon épouse que j'ai fait ça. Et bon, je lui suis encore reconnaissant aujourd'hui d'avoir fait tout ce travail. Ça a été des heures. Je ne sais pas combien d'heures non plus, d'ailleurs. On a passé en revue est-ce que c'est qu'une bouteille, une main. Et tout ça revenait une fois sur deux. Et le lendemain, ça revenait pas. Et peu à peu, c'est venu. Et c'est là que je dois beaucoup à mes orthophonistes et au professeur Sanson qui m'a dit non, tenez bon, ça va revenir.
Et justement, comment on fait pour reconnecter, pour retrouver ces mots-là qui sont quelque part, comment on fait pour refaire le chemin et pour à un moment savoir qu'il est, ça y est.
Ça, j'en sais rien, je sais pas. J'ai fait ça avec ténacité, endurance, tous les jours. J'ai passé des heures à chercher également la chose la plus difficile pour moi, ça a été au bout d'un an ou deux ans, quelque chose comme ça, de retenir les noms propres. Et j'en ai passé des listes, en essayant de me souvenir de la personne que c'était. Et ensuite, à partir de photographies avec mon orthophoniste qui me faisait passer les photos de gens que j'ai vus tous les jours pendant des années pour retrouver leur nom. Ça marchait une fois sur deux, une fois sur trois, ensuite peu à peu, quatre fois sur cinq, et puis aujourd'hui peut-être neuf fois sur dix, je sais pas.
Et aujourd'hui, c'est quel genre de mots qui manque parfois?
Il n'y en a plus.
Plus du
tout. En tout cas, je ne vous le dirai pas.
Est-ce que là, vous êtes en train de tricher parfois? Est-ce que vous faites des détours?
Un petit peu. De moins en moins.
Et vous êtes conscient de faire ça, de contourner certains mots parce que vous rendez compte qu'ils vous manquent?
Oui. J'ai appris à le faire petit à petit. Je le fais de moins en moins. Donc la vie devient belle.
Je vais lire un petit extrait de votre livre « J'étais un homme pressé », page 83, et c'est plutôt sur le moment où vous retrouvez le temps de me déplacer, d'aller et venir sans me presser, un temps au goût de paradis, le temps de dormir, le temps de lire. Très lentement m'est sortie de la peau la frénésie du PDG, la nécessité de rendre la prochaine minute de vie utile, active, visible. Tout le reste du temps, de vivre. Je le redécouvrais petit à petit, avec bonheur, l'impression de ne plus vivre intensément, férocement, goulûment, mais assez seul, céder la place au plaisir de vivre simplement, doucement, tranquillement, mais avec les autres. J'ai pu compter sans angoisse les heures passées à vivre avec les autres, m'en délecter, les laisser couler gentiment, naturellement. J'ai redécouvert la valeur du temps passé avec les autres, sans nécessité professionnelle. Le temps de discuter, le temps de manger, le temps de me promener, le temps d'aller au cinéma, le temps d'aider mes enfants à avancer dans la vie, le temps de retrouver les amis qui étaient peu à peu sortis de ma vie depuis que j'étais un grand patron, et aussi le temps de m'occuper de moi. Ça veut dire quoi, mieux vivre, Christian Streif? Puisque vous dites, petit à petit, j'ai appris à mieux vivre.
Au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma carrière, je me suis de plus en plus concentré sur le métier uniquement, ce que j'avais à faire, et tout ça a été difficile. Tellement difficile que ça a fini par me prendre tout mon temps. Et que j'ai perdu la richesse qui vient de la variété, de ce qu'on peut faire dans la vie, de ce qu'on... toutes les choses que j'avais su faire autrefois, que j'ai arrêté effectivement petit à petit à faire et que j'ai redécouverte ensuite. Je dis ça sans aucun regret. D'ailleurs, je ne suis pas en train de regretter d'avoir été le patron de PSA, bien au contraire. Et ça continue à cette dualité entre d'un côté faire un métier qui vous prend toute votre vie et pouvoir profiter du reste de la vie, bon, elle continue à m'agiter quelque peu.
Et est-ce qu'aujourd'hui vous parlez différemment, mais dans le sens où vous choisissez peut-être plus les mots, où vous prenez plus de temps, d'attention?
C'est clair, oui. Déjà, jamais de la vie, j'aurais passé une heure dans une émission comme la vôtre. C'était impossible. Donc, j'ai découvert des tas de choses à la vie qui sont passionnantes, qui sont...
On va vérifier qu'on entend bien les aigus, qu'on sent bien la caresse, qu'on ressent bien la mélancolie, mais aussi que l'on revit. C'est un peu d'opium que nous propose J.J. Johansson. C'est le nom de son 10e album et c'est une invitation à tout sentir en le multipliant, à donner du volume aux sentiments, à donner de la voix. La sienne ne change pas avec les années, parfaitement maîtrisée pour se retrouver face à soi.
Bonsoir, je suis J.J. Johansson en direct dans l'atelier intérieur d'Aurélie Charron sur France Culture. I've been reminded of it lately. I guess the gods above must hate me. I always thought I was immortal. Now I know I gotta think of what's important. I don't remember how it started. Maybe too many years of heartache. Now I could see my life in review. Was it real or just an endless lucid dreaming? Oh, it's frightening, but yet so delightful. Oh, it's frightening, but yet so delightful. I saw a strong light in a tunnel, shining brighter than the sun, knocking on the door to heaven. I heard a sound backing up the singing angels. Oh, it's frightening, but yet so delightful. Frightening, but yet so delightful. I wasn't climbing up a stairway, more like floating, drifting away. A sense of total painlessness, but who knows? Maybe it's just hallucinations. Suddenly leaving my own body, until I'm floating right above it. I could see myself immobile, out of reach, turning pale and almost frightening, budget so delightful. Oh, it's frightening. Budget so delightful. Oh, it's frightening. Budget so delightful. Frightening, but it's so delightful.
Cassé la colonne vertébrale, en fait, au niveau du cou.
En faisant quoi ?
J'étais tombé sur un bâton, sur le dos, et il y avait un bâton qui m'a enfoncé une vertèbre. Alors, dès qu'on s'est aperçu de ça, on m'a immédiatement immobilisé sur plus ou moins une planche, avec une minerve en plâtre, et des sacs de sable autour à droite et à gauche de la tête, et j'avais pas le droit de bouger du tout. Du tout, du tout. Et j'ai entendu mon père dire à ma... C'était terrible, parce que on m'a installé chez moi, donc, chez mes parents. J'étais couché, et puis ma mère pleurait. Ils ont été dans la pièce à côté, mais j'entendais quand même. Elle dit, mais qu'est-ce que... C'est très grave, tu crois? Et mon père a dit, c'est-à-dire que s'il bouge, il peut rester paralysé. Alors, quand j'ai entendu ça, ça a été vraiment... une douche froide. Et je me dis, bon, je ne vais pas bouger. Et à ce moment-là, ça a été vraiment incroyable, parce que je n'ai plus fait appel à un afflux musculaire, pendant pratiquement un mois. Finalement, quand le médecin est venu et m'a dit, bon, tu peux te lever, j'ai regardé, j'y croyais pas. Je n'avais pas envie, parce que finalement, j'en avais pris mon parti. Non, mais vraiment. Alors, j'étais dans un coin de pièce, et je voyais, par exemple, l'autre coin. J'entreprenais la traversée de la pièce. J'avais l'impression que j'étais un navire sur un océan. Et j'étais surpris de voir les choses se déformer au fur et à mesure que j'avançais. Parce que je n'avais plus l'habitude du déplacement. Et ça a été extraordinaire de réapprendre à marcher, à bouger, à évoluer. Je me suis amusé comme ça pendant un mois.
Ramuncho Mata, est-ce que comme Jean Babilé, le danseur chorégraphe qu'on entendait, vous êtes amusé à rebouger, remarcher, une fois que ça a été possible ?
D'abord, j'ai dû imaginer tout cela. En fait, comme j'avais tout perdu, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré une dame qui a dit un autre type d'analyse de la situation.
Comment ça s'est passé, en fait, là, parce que la toute première fois où vous vous rendez compte que tout à coup, vous ne pouvez pas bouger?
En fait, ça a commencé enfant. Parce qu'enfant, j'ai eu une expérience où il faut que je la fasse rapide, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Mais disons qu'en gros, je me suis retrouvé dans une situation avec mon père qui était passablement alcoolique, sur un petit bateau en caoutchouc. Petit bateau gonflable, vous voyez, avec des rames, je devais avoir 9 ans. Et il trouvait fascinant une éruption d'un volcan. Donc moi, je ramais, lui, il buvait en déclamant l'Autréamont. Et puis à un moment donné, on a perdu connaissance. Et quand on s'est réveillé, je n'avais plus la vue. Donc mon premier sentiment d'intérêt pour un nouvel état venait de là. Et puis après, j'étais pris dans une spirale où j'étais absolument indispensable à l'univers et il fallait que je sauve la planète en faisant des CD-ROM, des jeux vidéo, des choses comme ça pour nourrir ma nombreuse famille. Et puis on m'a demandé de faire un concert, j'ai eu un peu mal au bras, je suis allé voir un cardiologue qui m'a dit que j'avais le cœur d'un jeune homme de 20 ans. Et puis en allant en neurologie, j'ai perdu un bras, et puis l'autre bras, et puis les deux jambes. Et là, le médecin m'a dit, vous en avez pour 6 mois maximum. Donc c'est intéressant, je suis allé voir un autre spécialiste. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai eu beaucoup de chance dans cet itinéraire, parce que chaque fois que je voyais un spécialiste, il trouvait en moi sa maladie. Donc j'étais un merveilleux cobaye. Et puis j'ai changé d'endroit, et il faut taire le nom des gens parce qu'ils sont encore de ce monde. Mais je me suis retrouvé dans un autre hôpital, on m'a dit la même chose. Donc j'ai appelé un ami à moi et je lui ai dit « Est-ce que je peux venir mourir chez toi ?» Et il m'a dit « Oui, ça tombe bien. » Je me suis dit « J'ai des bons amis. » Et donc je suis arrivé chez lui en ambulance sur un brancard et je lui ai dit « Alors pourquoi ça tombe bien ?» Et il m'a dit « Parce que ma mère, à 86 ans, est devenue homosexuelle. » J'ai dit « Merveilleux, quelle chance !» Heureusement, j'avais gardé la tête, parce que beaucoup de gens qui ont eu mes symptômes n'avaient plus la tête. Et je lui ai dit « Et moi, là-dedans ?» Il m'a dit « Mais sa copine est là en ce moment. » Je lui ai dit « Quelle merveille, quelle chance, vraiment, c'est exceptionnel. » Et alors, eh bien, c'est la directrice de l'hôpital traditionnel de Pékin. Et cette dame a commencé à me prendre le pouls, comme ils font dans ces pays-là, et elle m'a dit « Ah, mais on connaît très très bien cette maladie chez nous, c'est quand la vie des gens n'est pas en adéquation avec leur destin. » J'ai trouvé ça plus joli que « Vous allez mourir dans 6 mois ». Et ça m'a donné, je pense, la volonté. Il parlait tout à l'heure de courage. Bien sûr, il y a courage. Mais l'autre jour, je suis allé voir mon directeur d'école qui m'a dit « Aujourd'hui, ce n'est plus du courage dont on a besoin, c'est de l'héroïsme. » Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça dans notre chemin qui est très touchant. Bien sûr, on a tous un métier qui est passionnant et qui, on espère, passionne aussi les autres. Mais à côté de ce métier, on a peut-être un travail qui est de constituer les outils pour nous élever. J'ai déjà oublié la question, en fait. C'était quoi la question ?
C'était comment tout ça s'est passé, comment c'est arrivé, mais vous avez répondu, vous avez raconté, mais est-ce que vous étiez un homme pressé comme Christian Streif ?
Ah, j'étais plus que... Oui, j'étais stressé, c'était un mélange de psychologie, de stressement, et en fait, comme on est dans une société très très pathogène quand même, dans les rapports humains, dans le rapport au travail, on est très compulsif, je pense que j'ai mis trop de choses dans mon métier et pas assez dans mon travail. Et en fait, on voit dans les enfants, quand ils sont à l'hôpital, quand ils sont à l'école, j'allais dire l'hôpital. C'est pas mal. Enfin, je voulais dire l'école, j'ai dit l'hôpital. C'est pas mal. En fait, c'est ça. Parce que les enfants, eux, ils ont cette capacité à pouvoir se jouer des choses. Et peut-être que nous, on perd un peu le jouet. Et donc, on se retrouve dans une situation un peu victime, plutôt que de s'amuser des choses. Et c'est arrivé aussi parce que quand on fait beaucoup d'ordinateurs, c'était mon cas, on fait des micro-apnées, donc on oublie de respirer, et du coup, ça crée des nœuds. Mais ça encore, c'est la vision de la maladie non occidentale. J'ai eu pas beaucoup de chance avec la médecine occidentale cette fois-ci.
Et alors, avec la directrice de l'hôpital de Pékin, ça a été quoi les premiers exercices ? Comment on réapprend petit à petit à avoir l'intention, le sentiment, et puis le mouvement ?
D'abord, on dort. On dort. On dort, on dort.
Comme Christian Streif.
Et ça fait un bien fou de dormir, cette chose qu'on ne s'autorisait pas. C'est-à-dire que soudain, on peut partir dans ce monde-là. Vous savez que pour les aborigènes australiens, le réel, c'est le monde des rêves. Et celui-ci qui nous entoure, c'est l'illusion. C'est possible. Donc on dort, et après, elle m'a fait faire du tai chi, d'abord mentalement. C'est-à-dire... Elle me disait « Bougez votre petit doigt ». Je disais « Mais où est ce petit doigt ?» Je n'avais aucune idée. C'était à peu près comme situer un petit village à l'est de Tombouctou. Quoi. Je n'avais aucune idée d'où était ce petit doigt. Donc elle me dit « Souvenez-vous d'un accident de vélo, de quelqu'un qui vous a mordu, quelque chose comme ça. » Et donc j'ai essayé de recréer mon système neurovégétatif, d'abord mentalement, et puis au bout de 6 mois, un doigt. Et après, il faut récupérer le reste. Qui est loin, très loin.
Combien de temps ça a mis pour...
Pour se retrouver dans une position debout, stable, on va dire 3 ans. Mais l'instabilité, c'est pas mal aussi. Comme il disait dans la chanson, il y a cette espèce de risque qui est absolument délicieux.
Et qu'est-ce que ça a changé dans la façon que vous avez aujourd'hui de bouger, de marcher, d'appréhender votre corps?
Ben, on vit toujours avec cette infinie tristesse d'être vivant. Mais néanmoins, on peut voir sa main et se dire « Waouh, c'est quand même dingue, pourquoi on s'embête avec tellement de choses inutiles ?» Donc, ça fait repenser tout le type de société dans lequel nous vivons et essayer de mettre en place des dispositifs, des déplacements pour faire que la chose soit supportable, joyeuse, délicieuse, exquise.
Et vous avez découvert quoi de votre propre corps? Puisque vous l'avez regagné petit à petit?
Ben, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était ingénieur en lubrification. Donc je me suis beaucoup intéressé à la mécanique. Et beaucoup de gens connaissent leur corps encore moins bien que leur automobile. Et j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des subtilités extraordinaires dans le corps. Et qu'il existe des territoires bien plus importants que la jouissance, qui serait peut-être du domaine du plaisir, tout simplement, et qu'il y a des choses très très simples et qui sont infiniment riches.
Christian Streif, est-ce que vous connaissiez moins votre corps que les automobiles? Ça, c'est une vraie question pour vous.
Il m'a fait réfléchir en disant que... vous avez dit que les automobiles... Oh, je l'ai perdu. C'est pas grave.
Mais c'est normal, c'est fait pour partir. C'est ça, oui, qui est beau avec les mots. C'est que c'est comme les humeurs, c'est comme les rencontres.
Il a dit que parfois on connaissait mieux notre automobile que notre corps dans le monde d'aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est une remarque générale. C'est-à-dire que pas mal de gens connaissent pas mal leur bagnole et peut-être un peu mieux que leur corps, oui.
Ce qui est un peu triste. Oui. C'est pour ça que la question du corps, par exemple le corps à l'école, c'est une question vraiment importante, parce qu'on la met dans un dispositif sportif, alors que le corps, c'est tout autre chose.
Isabelle Fruchard, pour entendre, pour écouter autour de vous, quel sens avait pris le relais quand vous êtes adolescente et que vous savez qu'il faut un peu tricher comme Christian Streif et trouver des stratégies?
Le premier qui a pris le relais, c'est la vue. C'est la vue, c'est sûr. Mais après, je sais que j'ai une très très bonne mémoire olfactive. Je ne sais pas si c'est lié, mais je sais que c'est un goût et un odorat très développé. Je m'en suis rendu compte après. Et le sens du toucher aussi. Alors, je ne sais pas, en tout cas, c'est... J'ai l'impression que c'est aussi un sixième sens de l'intuition, de sentir la personne, une observation qui passe par la vue, ça c'est sûr, mais de sentir l'intention dont parlent mes compagnons de tablé, ce qui est avant le mot, et que déjà on exprime d'une certaine manière l'intention générale. Et ça, sans faire d'effort de ma volonté, j'ai développé ça, d'être à l'écoute de ça.
C'est quoi les premiers sons que vous avez réentendus, puisque donc à 14 ans, vous perdez 70% de capacité d'audition des oreilles.
En moyenne.
À peu près. Et puis, vous en rendez pas compte forcément tout de suite. Enfin, voilà, vous êtes diagnostiqué bien plus tard, vers 26 ans. Et puis, vous vous appareillez à 37 ans, et là, tout à coup, les bruits... C'est ce que vous entendez, c'est ce que, dans le spectacle Journal de ma nouvelle oreille, vous racontez, puisqu'on passe du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, où les sons reviennent petit à petit. Quels sons sont revenus en premier? Qu'est-ce que vous avez réentendu et quelle émotion ça a suscité?
Le premier son, on en a parlé d'ailleurs, tout à l'heure, c'est ma voix. Je m'y attendais absolument pas. On me met des appareils. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais entendre? Et puis, en fait, je suis seule avec l'audioprothésiste. Je parle et je m'entends dans un micro. Et là, c'est très... En fait, ça pourrait être comparable à cet état pendant la grossesse où vous avez un enfant à l'intérieur de vous et par moment, vous vous dites mais c'est pas possible. Hein. Il faut qu'il sorte, ça suffit maintenant. Je suis plus moi-même, je suis habitée. Et non, il y a encore 6 mois, il y a encore 4 mois à attendre. Et là, c'est comme si j'étais habitée par moi-même, une voix qui est en fait la mienne, une voix étrangère qui est en fait la mienne. Donc, il y a eu, ça a été la surprise, ça a été une reconnaissance aussi, une reconnaître sa voix. Ça a été un mélange de plein d'impressions, en fait.
Le bruit de la pluie ?
Tous les petits bruits, les petits cliquetis comme ça, auxquels vous ne faites pas attention, que je raconte dans le spectacle, l'eau, sur la vaisselle. Je fais la vaisselle, et là, c'est un éblouissement. Et tout est éblouissement tous les jours. Tous ces petits bruits, les chuchotements, je redécouvre les chuchotements en moi-même. Je ne me souvenais plus avoir entendu ma voix chuchoter, même encore aujourd'hui, même pendant le spectacle. Je chuchote 2 fois, une fois avec un micro, une fois sans micro. Mais moi, je ne sais pas si on m'entend, parce que moi-même, je ne comprends pas trop ce que je dis quand je chuchote, même encore aujourd'hui. Pour moi, le chuchotement, ça a toujours été un mystère. Il y avait des spectacles où on me faisait chuchoter, mais pour moi, c'était comme lancer une bouteille à la mer. Je ne pouvais pas concevoir qu'on prenne un chuchotement. Là, ça, quand même, j'ai quand même accès. Maintenant, une voix chuchotée, je peux comprendre.
Vous racontez aussi les bruits du café, qui, oui, par moments, peuvent être assez agressifs et difficiles.
Oui, ça, c'est au départ. Parce qu'en fait, au départ, votre cerveau entend tout au même niveau et il met un petit temps avant de... Quand bien même l'appareil extrêmement performant, l'aide, hein, relaye le travail du cerveau, mais il a quand même un travail à faire. De faire passer les sons au premier plan, au dernier plan, selon l'intérêt. Bon, bah, les bruits de fond, évidemment, ils sont censés être derrière. Et là, au départ, tout est au premier plan. Donc la vaisselle, les couverts, les voiles, les tout. Vous entendez tout. Et évidemment qu'au début, vous êtes censé porter vos appareils 1 heure par jour, 2 heures, 3 heures, progressivement. Et moi, évidemment, c'est pas ça du tout que j'ai fait. J'ai porté toute la journée parce que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Donc je n'avais qu'à m'en prendre qu'à moi-même, d'être dans cette, de vivre ça avec autant de... Oui, c'était agressif quand même.
Parfois, une fois vous dites « j'étais présente, absente », comment, oui, vous décririez cet état ?
C'est étonnant parce que je l'ai entendu dans vos deux bouches à vous, non ?
Je ne sais cet plus ce que j'ai dit.
Cet état de présence, absente.
Ils ont tout oublié.
C'est possible, oui.
Vous avez tout oublié, c'est bien. Alors, les auditeurs, eux, ils s'en souviennent, j'en suis sûre. Alors, oui, présente, absente, c'est être là, écouter, vouloir comprendre. Mais rater un peu tout ce qui se dit. Passer à côté du sens. Pas de tout. Mais il y a des choses qui vous échappent. Donc vous avez l'impression de ne pas être totalement là, puisque vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Vous êtes étrangère un peu. Vous êtes là et pas là, vous êtes proche et loin à la fois, alors même que vous voulez être là. Et là, c'est un peu bizarre. Comme on ne vous a pas diagnostiqué, comme on vous a dit que vous n'aviez aucun problème physiologique, vous vous dites que vous avez vraiment un problème psychologique assez particulier. Vous n'en parlez à personne. Et vous vivez ça, ça dépend des jours.
Vous dites au début, il voulait pas que je sois sourde. J'étais trop rêveuse, renfermée, je m'en fichais un peu des autres. Ça veut dire que, en gros, on vous faisait comprendre que c'était vous qui vous,
oui,
renfermiez un peu et que c'était un trait de caractère.
Bien sûr, c'était... moi, j'avais cette image-là dans ma famille. Mes amis avec qui je travaillais m'appelaient professeur Tournesol. On en riait beaucoup, d'ailleurs, parce qu'il y avait tellement de malentendus, des quiproquos tellement drôles. Mais j'avais l'image du poète dans sa bulle. J'étais renfermée dans mon monde, mon univers. Je ne faisais pas assez attention aux autres. Donc c'est pour ça que le jour où j'ai été diagnostiquée, ça a été une libération pour moi. En même temps, quelque chose s'est écroulé parce que je devais admettre qu'il y avait perte en moi. Mais c'était tout le contraire de ce que j'avais cru jusqu'à présent. C'était au contraire parce que j'étais ouverte au monde, curieuse des autres que je pouvais mener une vie normale malgré ma déficience auditive. Donc en fait, c'était aussi une très très bonne nouvelle.
Tout à l'heure, en arrivant, vous nous avez dit, mais le soir, je redeviens comme avant parce que j'enlève mes appareils. Mmh. Donc là, tout à l'heure, vous allez rentrer chez vous, vous allez enlever vos appareils. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la sensation
C'est une sensation générale d'assourdissement. C'est comme si vous étiez sous l'eau ou comme si vous aviez les oreilles bouchées en permanence. C'est-à-dire que les petits bruits, je les entends pas. Si on me parle de loin, je comprends pas. J'entends qu'on me parle, parfois non, mais la plupart du temps j'entends qu'on me parle, mais je comprends pas. Donc quand on vit avec moi, c'est un peu fatigant, c'est surtout pour les autres que je le mets.
Christian Streif, vous écrivez « Ma vie est devenue, au contraire de ce qu'elle était, une vie d'écoute autant que de parole ». Vous écoutez aujourd'hui plus que vous ne
beaucoup plus,
le faisiez oui. avant ?
Beaucoup plus. Je pense que c'est la chose la plus importante que m'a apporté l'AVC. D'apprendre à écouter, d'abord forcer. D'abord parce que je n'étais pas sûr de parler, comme de dire ce que j'avais envie de dire, et ainsi de suite. Ça crée toute une difficulté, et donc ça vous oblige à écouter. Donc au départ, c'était une sorte de... Je m'étais un peu imposé, et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était fantastique. Et aujourd'hui, je passe... Je dois passer 3-4 fois le temps à écouter les autres que je passais avant. C'était pas un point fort avant.
Et vous parlez moins?
Oui, clairement, oui. Clairement, parce que c'est plus difficile quand même. Et je suis pas aussi sûr que de moi que je l'étais. Oui, j'ai passé toute ma vie, j'ai été élevé, et je me suis développé dans l'assurance, dans le sentiment d'avoir raison face à quelqu'un, de l'imposer, de penser un petit peu plus vite que tout le monde, et à un moment donné, c'est plus possible, donc on se met à écouter, puis ensuite, c'est fantastique tout ce que disent les gens. Et c'est une grande richesse que j'ai acquise aujourd'hui, je pense.
Isabelle Fruchard, il y a quelques instruments que vous n'entendez pas, comme le triangle.
Oui.
Pourquoi? Parce que c'est une fréquence trop
c'est,
aiguë.
C'est trop aiguë. Je crois que... Ouais, il y a quand même... Dans les aigus, je vais jusqu'à moins 90% de perte. Et le triangle, peut-être certains traits du piccolo aussi.
Et la voix de J.J. Johnson?
Si.
Ça a été?
Ouais, je l'entends. Je ne peux pas dire comment vous l'entendez, je ne peux pas comparer, mais oui, c'est pour ça que j'ai enlevé le casque, pour entendre aussi en live comme ça, et ouais, je l'entends.
Alors un dernier morceau avant minuit, en direct, de J.J. Johnson, dont le dernier disque, Opium, nous invite à décupler nos sensations.
A chance to get to know, but that I would like to learn it all from you. I don't know much about loving. I don't know much about women. I've met a few, but nothing lasted long. I never figured out what I did wrong. I don't know much about women. Would you teach me, teach me, teach me? Every day you show me something new. Would you teach me, teach me, teach me? Each moment I pick up a thing or two. Never been a seducer. I guess I'm just too shy to even dare. That makes it hard to show I really care. I never been a seducer. Every day you show me something new. Would you teach me, teach me, teach me? Each moment I pick up a thing or two. I become an expert on lonely. I've learned too much about loneliness before. I don't want to study that subject anymore. I become an expert on lonely.
Ramon Chomata, vous mimiez les doigts sur le piano, ça a dû être atroce de perdre le mouvement des doigts.
Ben, ça, c'est des choses que j'ai... Enfin, j'ai perdu à tout jamais une partie de la musique. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on entend de ce qu'on écoute ?
On va finir avec cette question. Qu'est-ce qu'on entend de ce qu'on écoute ? L'atelier intérieur se finit, je dis merci à Alice Ramon, Lionel Quentin, Élise Leu, Thibaut Germèze. Le journal de Ma Nouvelle Oreille, c'est au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 3 juillet avec Isabelle Fruchard. Nous avons commencé par nous lever. Une heure après, nouveau corps, nouvelles oreilles, nouveaux mots. On a tout retrouvé, on a refait, réparé, le chemin coupé. Nous voilà à nouveau dans le monde, l'atelier intérieur, la dernière, c'est lundi soir prochain. Les ateliers de la nuit, avant-dernière semaine, c'est celle-ci. Il est minuit, vous écoutez France Culture.